22. Brady revient de Carbine Street, au paradis des Pelzouilles, rajeuni et exalté. Avec la grosse Ellsbury, ça a été facile et amusant. Il se demande combien il faudra de croque-morts pour descendre son corps du deuxième étage. Au moins 4, se dit-il. Et t'imagines le cercueil ? Taille XXL ! Quand il va vérifier le site et le trouve hors ligne, sa bonne humeur s'effondre à nouveau. Certes, il s'attendait à ce que Hodges le trouve et le neutralise, mais il ne s'attendait pas à ce que ça arrive si vite. Et le numéro de téléphone affiché à l'écran est aussi rageant que les messages provocateurs que lui avait laissé Hodges sous le parapluie bleu de débit lors de leur match aller. C'est un numéro d'urgence anti-suicide. Il n'a même pas besoin de vérifier. Il sait. Eh oui, Hodges va venir. Plein de gens à Kinner connaissent cet endroit. Il est, comme qui dirait, légendaire. Mais va-t-il venir directement ? Brady n'y croit pas une seule seconde. Et d'un, le vieux Offret n'est pas sans savoir que beaucoup de chasseurs laissent leurs fusils de chasse à leur camp, même si peu sont aussi bien fournis que têtes et peaux. Et de deux, et c'est le plus important, le vieux flic est une hyène rusée. Plus vieux de 6 ans depuis sa première rencontre avec Brady, certes, assurément plus poussif et moins ferme sur ses jambes, mais rusé. Le genre d'animal sournois qui ne s'en prend pas directement à toi, mais te chope au jarret quand t'as le dos tourné. Donc, je suis Hodges. Qu'est-ce que je fais ? Après avoir mûrement réfléchi à la question, Brady va ouvrir le placard de l'entrée. Et une brève incursion dans la mémoire de Babineau, ce qu'il en reste, lui suffit pour choisir un équipement d'extérieur appartenant au corps qu'il habite. Tout lui va à la perfection. Il rajoute une paire de gants pour protéger ses doigts arthritiques et sort. La neige chute encore modérément et les branches des arbres sont immobiles. Tout cela changera plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore assez agréable et propice à une balade autour de la propriété. Il marche jusqu'à un tas de bois recouvert d'une vieille bâche en toile et d'une dizaine de centimètres de poudreuse. Au-delà s'étendent 1 ou 2 hectares de vieux pins et d'épicéas à centenaires qui séparent têtes et peaux du camp de l'ours du grand Bob. C'est parfait. Une nouvelle visite à la vitrine des armes s'impose. Le SCAR est super, mais la vitrine contient d'autres choses qui pourraient lui être utiles. « Ah, inspecteur Hodges, » pense Brady en se dépêchant de rebrousser chemin, « j'ai une sacrée surprise. Une sacrée surprise pour toi. » 23. Jérôme écoute attentivement ce que Hodges lui dit, puis secoue la tête. « Pas question, Bill. Il faut que je vienne. »«
Ce qu'il faut que tu fasses, » c'est rentrer chez toi pour être avec ta famille, dit Hodges, et tout particulièrement avec ta sœur. Elle l'a échappé belle hier.
Ils sont assis dans un coin du hall d'entrée du Hilton, et ils parlent à voix basse, même si l'employé de la réception a lui aussi déserté les lieux. Jérôme se penche en avant, main plantée sur les cuisses, visage figé en une moue opiniâtre.
Si Holly vient, c'est différent pour nous, Jérôme, dit Holly. Tu dois bien t'en rendre compte. Moi, je ne m'entends pas avec ma mère. On ne s'est jamais entendu. Je la vois 1 ou 2 fois par an, maximum. Je suis toujours contente de repartir. Et je suis sûre qu'elle est contente de me voir partir. Quant à Bill, tu sais qu'il combattra la maladie. Mais nous savons aussi bien l'un que l'autre quelles sont ses chances. Ton cas n'a rien à voir avec le nôtre.
Hartsfield est dangereux, dit Hodges. Et on ne peut pas compter sur l'effet de surprise. S'il ne se doute pas que j'arrive, c'est qu'il est stupide. Or, on sait qu'il l'a jamais été.
On était 3 au Mingo, dit Jérôme. Et quand t'as eu ton problème cardiaque, on n'était plus que 2, Holly et moi. Et on s'est bien débrouillé. C'était différent la dernière fois, dit Holly. La dernière fois, il n'était pas capable de ses diableries mentales. Je veux quand même venir.
Hodges hoche la tête. Je comprends. Mais c'est encore moi le chef de meute. Et le chef de meute dit non.
Mais... « Il y a une autre raison, » dit Holly, « plus importante. Le répéteur est désactivé et le site Internet est démantelé, mais il reste encore près de 250 zapites en activité. Il y a déjà eu au moins 1 suicide et nous ne pouvons pas dire à la police tout ce que nous savons. Isabelle Janes considère Bill comme un enquiquineur, et n'importe qui d'autre nous prendrait pour des fous. S'il nous arrive quoi que ce soit, il ne restera plus que toi. Tu comprends ça ?
Ce que je comprends, c'est que vous m'excluez, dit Jérôme.
D'un seul coup, Hodges a l'impression d'entendre le gamin monter en graine qui venait lui tondre sa pelouse il y a tant d'années.
« Et ce n'est pas tout, » dit Hodges. « Je serai peut-être contraint de le tuer. En fait, je pense que c'est l'issue la plus probable. »«
Bon sang, Bill, je le sais. » »«
Mais pour la police et le reste du monde, l'homme que j'aurai tué sera un neurochirurgien respecté nommé Félix Babineau. Je me suis tiré de quelque chose trappe juridique particulièrement épineuse depuis que j'ai ouvert Finder Keepers, mais celle-ci pourrait être différente. »
Tu veux risquer d'être inculpé de complicité de meurtre avec circonstances aggravantes, parmi lesquelles dans notre état figure la négligence coupable, peut-être même d'homicide volontaire.
Jérôme fait la grimace.
Et tu es prêt à laisser Holly prendre ce risque ?
Holly répond.
Tu es le seul d'entre nous à avoir encore ta vie devant toi.
Hodges se penche en avant, même si le mouvement le fait souffrir, et referme sa main sur la large nuque de Jérôme. Je sais que ça ne te plaît pas. Je ne m'attendais pas à une autre réaction de ta part. Mais c'est la meilleure chose à faire, pour les raisons les meilleures.
Jérôme réfléchit encore et soupire. Je comprends votre argument.
Hodges et Holly attendent, sachant que ce n'est pas encore une adhésion franche.
Ok, finit par dire Jérôme. Je déteste ça, mais ok.
Hodges se lève. Main sur le flanc pour contenir la douleur. Alors filons chercher ce 4x4. La tempête arrive, et j'aimerais avoir fait le plus de route possible sur l'I-47 avant qu'on se la prenne de plein fouet.
24. Quand ils ressortent du bureau de location avec les clés d'un 4x4 expédition, Jérôme est appuyé au capot de sa Jeep Wrangler. Il étreint au lit et lui chuchote à l'oreille.
Dernière chance. « Emmenez-moi !»
Elle secoue la tête contre son torse. Il la relâche et se tourne vers Hodges, qui porte son vieux borsalino au bord déjà blanc de neige. Hodges l'arrête d'un geste de la main.
« En d'autres circonstances, j'aurais pas dit non à une accolade, mais là, elles me sont douloureuses. »
Jérôme se contente d'une solide poignée de main. Il a les larmes aux yeux.
« Fais attention, mec. Tiens-moi au courant. Et ramène-nous notre libéré. »
« J'y compte bien, » dit Hodges.
Jérôme les regarde grimper dans l'expédition. Bill s'installe au volant avec une gêne évidente. Jérôme sait qu'ils ont raison. Des trois, il est le moins dispensable. Ce qui ne veut pas dire qu'il apprécie, ou qu'il ne se sente pas moins comme un gamin qu'on renvoie chez maman.
« Il les aurait bien suivis, » se dit-il,
si ce n'était ce que Holly a dit dans le hall de l'hôtel désert. « S'il nous arrive quoi que ce soit, » il ne restera plus que toi. Jérôme monte dans sa Jeep et prend le chemin du retour. Alors qu'il s'engage sur le périphérique, il a une forte prémonition. Il ne reverra jamais ses deux amis. Il tente de se persuader que c'est de la superstition débile, mais ça ne marche pas vraiment.